vieilles théologies, des vieilles doctrines, des vieilles pratiques, des vieilles choses. Fin du 18e, début du 19e, 20e, dès qu'il y a eu un réveil de l'esprit, vous savez qu'il y a aussi des mouvements qui se sont développés, qui sont devenus des mouvements internationaux, religieux, mormons, témoins de Jéhovah, où les mêmes hérésies des premiers siècles, on retrouve la même chose. Et puis, qui est Christ? Eh bien, les choses sont tordues. On le retrouve dans l'islam, on le retrouve dans plein de religions. C'est pourquoi c'est intéressant et c'est important de travailler dans nos vies qui est le Christ tel qu'il nous est révélé dans l'Écriture. On peut le faire d'après ses titres, ses appellations, ce qu'il est, tous les noms qui sont donnés. Il y a 2-3 ans, je me suis amusé, non, c'est plus sérieux que ça. J'ai pris toutes les appellations, tous les noms que je pouvais trouver pour Jésus dans le Nouveau Testament. J'en ai trouvé pratiquement une cinquantaine. Donc si un jour vous avez de l'énergie, on peut lire l'Écriture de multiples manières. On peut le faire aussi en suivant des thèmes. Vous pouvez prendre une concordance, mais vous pouvez aussi faire une lecture rapide, cursive, et puis noter sur une feuille eh bien, tout ce que vous trouvez qui a trait au nom ou à la manière dont Jésus est décrit. C'est tellement riche. Si on dit que Jésus est mon bien-aimé, est-ce que ça ne vaut pas le coup de connaître celui qui est mon bien-aimé? Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à connaître l'enfance de Catherine. Quand j'allais chez ses parents, pratiquement le deuxième jour, il y avait tous les albums de famille. Je regardais les albums de famille quand Catherine était haute comme trois pommes jusqu'à... Voilà, c'est connaître ça m'a bien aimé. Mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est vrai que nous chantons Jésus, mon bien-aimé, Christ, mon bien-aimé. Voilà quel est le travail, quel fondement nous posons pour connaître celui qui est mon bien-aimé, notre bien-aimé. Donc ça vaut le coup de faire un petit peu de travail. Je disais tout à l'heure, je me suis amusé, mais bien sûr, il y a une partie de plaisir. Mais c'est tellement extraordinaire de savoir qui est vraiment Jésus. Un homme s'est penché, puis a fait un certain type de travail il y a quelques années, et donc il a fait tout un travail sur les titres christologiques, les titres relatifs à l'œuvre terrestre de Christ, Jésus le prophète, le Christ, Jésus, serviteur souffrant, le grand prêtre, relatifs à son œuvre future. Il est le Messie, le Christ, le fils de David. Aussi, quelque chose d'assez mystérieux, Jésus est décrit comme étant le fils de l'homme. On le retrouve dans Daniel, ça court dans l'Écriture, on le retrouve dans les Évangiles. Les titres de Christ relatifs à son œuvre présente, il est le Seigneur, le Kurios, et il est le Sauveur, Soter en grec, toute une partie de la dogmatique, la doctrine qu'on appelle aussi la sotériologie. Des titres de Christ relatifs à sa préexistence. Il est la parole, le logos, celui qui développe la pensée de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il est le médiateur. Il est l'agneau de Dieu. Il est juge. Il est le Saint de Dieu, il est le Roi. Et quand j'ai annoncé tous ces titres, je n'ai pas clos tout ce que l'on peut apprendre et connaître sur l'être, sur la personne, sur l'œuvre de Jésus. C'est quelque chose qui est encore beaucoup plus grand, beaucoup plus étendu. On peut lire ensemble dans Jean, au chapitre 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Se laisser toucher, transformer par la connaissance du Christ Jésus, nous permet aussi de connaître Dieu le Père, Dieu son lié. Dieu est une trinité, Père, Fils et Esprit. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Et c'est le faire aussi par l'Esprit Saint du Dieu vivant. À chaque fois que je grandis dans ma connaissance de cette personne complexe qu'est Dieu, je grandis dans tous ces domaines de révélation que sont la personne de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Tous les anciens, tous les prophètes, tous les patriarches, tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament qui se sont approchés de Dieu à un moment donné ont été quelque chose d'extraordinaire. Une révélation multiple qui parfois a fait peur. Certains parfois ont dit, mes yeux ont vu Dieu, c'est la fin, je vais mourir. Tellement extraordinaire de pouvoir rencontrer le Père en puissance, en profondeur, en étendue, par Jésus-Christ. Parce que c'est seulement par lui que nous pouvons connaître le Père. Le Nouveau Testament nous fait entrer dans la connaissance de la personne du Christ Jésus. Dans sa nature, dans sa vie, son œuvre, dans ses fonctions, dans ses titres, dans son être et dans sa personne. Je disais, le Jésus qui va être connu tout au long des siècles de l'histoire de l'Église est déjà entraîné dans des querelles de développement. Parce que chacun, les uns ont des grilles de lecture, le monde gréco-romain va essayer de comprendre le Christ au travers de son prisme, en s'éloignant de plus en plus de tout le monde du Moyen-Orient, le monde hébraïque. Et puis on va arriver dans l'Église à des moments où le Christ devient un peu flou, on va dire ça comme ça. Et au Moyen-Âge, et régulièrement, voilà, Dieu doit travailler des hommes et leur faire redécouvrir profondément qui est le Christ. Bien sûr, il est toujours proclamé dans l'Église, mais il y a des moments où on ne sait plus très bien les contours de qui il est, de sa vie, de son œuvre. Qui est Jésus ? Qui est le Jésus du Nouveau Testament ? Quelle perception nous en avons, chacun ? Si on devait prendre une feuille chacun, puis brosser le portrait de mon Jésus, et qu'on mettait en commun, voilà, on aurait toute une palette de tâches, comme un tableau peut-être impressionniste. Il y aurait de toutes les couleurs, chacun a sa perception, son vécu, ses expériences. Et bien souvent, ce sont nos expériences qui nous servent de lunettes pour Jésus. Donc, moi, je l'ai rencontré de telle et telle manière, et pour moi, Jésus est comme ça. Et puis après, bien, ce que l'on peut faire, c'est déposer ma conception de qui est Jésus, puis peut-être se tourner vers l'Écriture et voir ensemble en Église qui est le Jésus du Nouveau Testament. J'ai tellement été marqué quand j'étais gamin par la religion catholique qui présentait toujours un Noël, je disais le petit Jésus dans la crèche. Vous savez, on avait même des bonbons en guimauve avec le petit Jésus. Enfin, c'est des visions de Jésus. Puis alors, c'est morcelé. Il y en a un bout par-ci, un bout par-là. Mais la puissance de son être et de son œuvre, ça reste quelque chose de flou. Et personne ne peut trouver le salut seulement au travers du petit Jésus dans la crèche. Il faut que Jésus soit plus cohérent, plus construit, plus profond, plus enraciné dans nos vies. Il accomplit les annonces, les promesses de l'Ancien Testament et il les dépasse. Il est en même temps tout cela, mais quand on le rencontre dans sa réalité, c'est quelque chose qui le dépasse. Il est plus grand que les attentes du peuple d'Israël et en même temps nous le connaissons aussi au travers de tous ses écrits et de toutes ses attentes. Il est le précurseur du royaume à venir. Il est ce royaume. Il est le royaume de Dieu au milieu de nous. Il est l'exécuteur des prophéties de l'Ancien Testament. Tout ce que Dieu a dit, Ancien Testament, Nouveau Testament, tout a été réuni, tout est en Christ. Et Dieu n'a rien d'autre à nous proposer que Christ. Il est Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est identifié comme ayant vécu en Israël à telle période, dans telle ville, né dans le pays d'Israël, au Moyen-Orient. Même s'il est prêché, cru, vécu, célébré dans le monde entier, son origine ne change pas au niveau terrestre. Le Christ a une réalité et une épaisseur historique. On peut savoir comme cela qui il est. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Matthieu 16, les versets 13 à 20, un texte très très connu. C'est cette révélation tellement puissante, tellement profonde que Pierre a eue avec le Christ Jésus. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Isaïe, les autres Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'était encore un temps où c'était encore un peu secret caché. Jésus est toujours assez cache, direct dans ses relations. À ses disciples, il leur dit comme ça, tout go, et vous ? Qui je suis. Pour Jésus, c'est essentiel que les disciples aient la bonne révélation, la bonne compréhension de qui il est. Qui suis-je au dire des hommes ? Il leur demande s'ils ont fait traîner leurs oreilles, comme cela un peu partout, puis Jésus veut avoir le retour de ce qui se dit dans le peuple, pour savoir comment aider les hommes à grandir dans cette révélation de Dieu. Et là, les réponses sont multiples. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Qui est le Christ Jésus pour moi ce matin ? C'est des questions existentielles. On n'est pas habitué dans notre société à se poser des questions profondes. Avec les médias, on passe d'une chose à l'autre, on balaye tellement de choses. Beaucoup de superficialité. En supposant que Jésus revienne dans les 5 minutes qui viennent, et puis s'adresse à nous en disant, mais pour toi, qui je suis ? Quelle serait ma réponse ? Je vois dans mon propre parcours, entre le moment où j'étais touché par Dieu et le moment où je suis né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, il a fallu quelques mois. Il y a des hommes qui vivent plein d'expériences. Certains vont marcher dans le désert, d'autres dans la nature, puis tout d'un coup, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Leur vie n'est plus jamais la même. Ils font des écrits sur la révélation qu'ils en ont eue. Et quand on lit ces écrits, on s'aperçoit que Dieu est très présent, mais Jésus, très peu. Et on s'aperçoit que finalement, la révélation du Christ qui est essentielle, elle reste très fragmentaire, très faible, très petite. Par contre, le Dieu créateur, oui, ces gens-là ont été touchés par quelque chose d'extraordinaire qui a transformé leur vie. Et après, les gens disent, ah ouais, depuis ce jour-là, où ce qu'il a vécu, ce n'est plus le même. Et puis en même temps, on cherche les traces de qui est Jésus pour eux. Qui est Jésus pour moi ce matin? Qu'est-ce que j'ai compris de Jésus? Qu'est-ce que j'ai envie de comprendre? Quelle est ma soif de celui qui est mon bien-aimé? Est-ce que j'ai envie de le rencontrer? Est-ce que j'ai envie de le voir? Est-ce que j'ai envie, vous savez, pour dire des mots d'amour à quelqu'un, je pense qu'il faut le connaître de manière profonde, intime. C'est toute la richesse de la relation. Je pense que chaque relation privilégiée entre frères et sœurs, il y a les diminutifs, il y a les petits mots, voilà, qui disent l'intimité. Quels sont les mots, les termes que j'utilise pour parler à Jésus dans ma vie profonde, dans ma vie de prière, dans ma vie de foi. Dans la première église, il y avait comme ça des hymnes de gloire, et puis dedans, on y mettait quelques-uns de ces titres ou de ces manières d'être de Jésus. L'apôtre Paul, quand il a fait tous ses écrits, on a comme ça, c'est juste 1, 2, 3 versets où on a ces hymnes de gloire de la première église. Je suis profondément amoureux de ces textes. Parce que je trouve là, c'est pas seulement une tradition millénaire, mais c'est aussi toute l'intensité de la relation avec le Christ de la première église qui est donnée dans ces titres de gloire. Et c'est tellement beau de pouvoir fermer les yeux et proclamer aussi, avec toute l'Église depuis 2 millénaires, proclamer ce qu'est Jésus dans les lieux célestes. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On pourrait dire, « Bah oui, bah c'est simple. » C'est pas si simple que ça. Il a fallu que Pierre ait une révélation qui soit personnel. Un journaliste chrétien qui s'appelle Don Cheryl était dans un des plus grands journaux américains. Et puis un jour, il a entendu parler de tout le renouveau charismatique. Et puis il s'est dit, tiens, je vais aller faire un reportage là-dessus. Et il a rencontré des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit et qui parlaient en langue. Il n'en avait jamais entendu parler. Il est allé dans les réunions. Et puis, déjà, il s'est interrogé, il s'est dit, mais quel genre de chrétien est-ce que je suis? Et puis, il a remarqué que, voilà, bon, il était un chrétien. Il écrivait des articles religieux dans un des plus grands journaux américains. Et puis, en même temps, il s'est rendu compte que le Christ, Je dis pas que c'était un inconnu, mais en tous les cas, de manière personnelle, il se rendait compte qu'il savait pas très bien qui c'était. Et puis un jour, il marchait sur un trottoir et il s'est dit, mais est-ce que je pourrais simplement proclamer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ?» Et en prononçant cette phrase, en marchant sur un trottoir, il est né de nouveau. Et il s'est rendu compte qu'avant, je ne dis pas que Jésus était un inconnu, intellectuellement il savait plein de choses, mais dans son cœur, il y avait un creux, il y avait un vide, il y avait un manque. Il ne savait pas très bien. Cet homme a continué à faire tout un travail sur les mouvements charismatiques. C'est lui qui a écrit ce petit livre, Il parle en d'autres langues. Plus de 40 ans maintenant, il a fait toute une enquête. Je ne sais plus si c'est David Wilkerson ou quelqu'un qui a prié pour lui. Et il a été rempli, baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi il parle tellement de manière intense et intéressante de cela. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas parce que je suis éduqué et élevé dans une famille chrétienne que je vais devenir chrétien. Pour chacun d'entre nous, il faut une révélation. Quel est mon niveau de révélation de qui est le Christ Jésus? Et s'il revenait maintenant, est-ce que le face-à-face serait gênant pour moi en disant, c'est qui? Ah, je crois savoir qui c'est. Mais... Ou est-ce que toute la richesse, toute la plénitude qui est en Christ, qui est révélée aussi dans l'Écriture, est-ce que je peux avancer dans cette révélation? Je vais vous laisser un petit peu sur cette fin. Et puis, on continue. On a commencé un voyage au long cours sur tous les titres de Jésus. Mais je trouve intéressant de poser... je vous ai parlé tout à l'heure de la construction à Lorient. Un pylône après l'autre, on les enfonce pour pouvoir construire un édifice qui soit conséquent. On veut prier ensemble. Père Céleste, merci pour cette révélation intérieure, profonde, de celui que tu as envoyé sur terre pour notre salut. Merci de nous faire grandir dans cette révélation de qui est ton Fils, avec tous ces titres, toutes ces appellations, tous ces noms, toute cette densité, toute cette intimité. Merci de nous faire grandir dans la révélation. Nous te le demandons et nous nous attendons à cette action, cette onction de ton esprit qui prend de ce qui est à toi, Jésus, et qui nous le donne. Merci de nous faire grandir chacun dans notre intimité, dans notre vie de prière, dans notre vie de foi. Merci de pouvoir nous réjouir de tout ce que tu es. Tout ce que tu fais, de toute ton œuvre. Seigneur, merci de nous faire grandir dans la richesse, dans la connaissance de ton être profond. Amen.